Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 16h à Paris, 15h en temps universel. L'heure du journal, présentée par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Igor, bonjour à tous. Dans l'actualité, les réactions à la proposition choc de Donald Trump sur la bande de Gaza. Il souhaite que les États-Unis prennent le contrôle du territoire pour en faire une sorte de Côte d'Azur. Le président américain a aussi redit que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte. Déclaration choc vivement condamnée sur place dans les territoires palestiniens et à l'étranger. Dans un instant, la position de Paris. Dans ce journal également, une grève général au Maroc pour dénoncer une loi qui encadre le droit de grève et le plongeon des ventes de cognac l'an dernier en cause des taxes imposées par la Chine. Les réactions aux déclarations fracassantes de Donald Trump sur la bande de Gaza ont été nombreuses, la plupart pour les dénoncer. Recevant hier soir à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien, le président américain a souhaité que les États-Unis prennent le contrôle du territoire pour en faire une sorte de Riviera, de Côte d'Azur. Il a aussi redit que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte, malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes. Cette sortie choc a été vivement condamnée dans le monde arabo-musulman. Également par Paris. Déclaration dangereuse pour la stabilité, pour le processus de paix. C'est la réaction ce matin de la porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas.
Je veux réitérer ici le fait que la France est opposée pleinement au déplacement des populations. C'est un sujet de déséquilibre dans le Moyen-Orient, évidemment, qui est contraire à la solution à deux États que nous prônons depuis des années. Je rajouterais que les déclarations sont probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Nous avons encore des otages, nous avons... possible déstabilisation de ce territoire qui est à feu et à sang depuis trop d'années. Et par conséquent, nous en tenons à notre politique qui n'est pas de déplacement des populations, la recherche d'un cessez-le-feu temporaire vers un processus de paix et une solution à deux États.
La porte-parole du gouvernement français au micro de Valérie Gasse. L'Allemagne donne tort à Donald Trump en estimant que la bande de Gaza appartient aux Palestiniens. Autre réaction, celle de la Chine qui a toujours plaidé en faveur de l'autonomie palestinienne. Elle s'opposera au transfert forcé des habitants de Gaza. Et puis du côté de l'ONU, le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés a qualifié le projet de Donald Trump de très surprenant. Transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient, cette idée n'est pas nouvelle. Il y a un an, le Jean et ancien conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, avait fait une proposition du même type. Pierre-Olivier.
Je suis assis à Miami Beach en ce moment et quand je vois la situation là-bas, je me dis, si j'y étais, qu'est-ce que je ferais ?
La scène se déroule le 15 février 2024. Jared Kushner intervient pour l'université d'Harvard. Cela fait 5 mois que l'offensive israélienne à Gaza a commencé, tuant près de 30 000 personnes. Mais au détour d'une question, l'homme de 43 ans, ancien magnat de l'immobilier, fait cette suggestion.
Le front de mer de Gaza pourrait avoir une grande valeur si seulement les gens se concentraient sur le développement économique. Vous imaginez les sommes dépensées dans les tunnels, les munitions. Si cet argent avait été investi dans l'éducation ou la rénovation, tout ce qui aurait pu être fait.
Presque un an avant la proposition de son beau-père Donald Trump de contrôler Gaza, Jared Kushner, juif orthodoxe, avait aussi fait part de quelques idées concernant la population.
La situation là-bas est un peu fâcheuse, mais si j'étais Israël, je ferais de mon mieux pour déplacer les habitants dans le Negev, par exemple, et nettoyer. Je ne pense pas qu'Israël serait contre leur retour ensuite.
L'absence totale de compassion et d'empathie du mari d'Ivanka Trump avait provoqué un tollé dans une partie de l'opinion, alors loin de se douter que son beau-père reprendrait dans les grandes lignes ces mêmes propositions.
C'était Pierre-Olivier, le même Donald Trump qui rêve de s'emparer de la bande de Gaza a par ailleurs déclenché un début de guerre commerciale avec la Chine. Après avoir dévoilé hier des mesures de rétorsion, la Chine a dit ce matin son hostilité au relèvement des droits de douane américains sur ses produits. Elle a aussi appelé Washington au dialogue.
Radio France Internationale.
En République démocratique du Congo, les combats ont repris aujourd'hui dans le sud Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et aux militaires rwandais. Des combats qui se concentrent autour de la localité de Nyabimbwe, dans le territoire de Kalehe. Le porte-parole du gouvernement congolais affirme que les positions de l'armée ont été attaquées et que le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait lui-même déclaré unilatéralement. C'était avant-hier. Une grève générale de 2 jours a débuté ce matin au Maroc à l'appel des 5 principaux syndicats du royaume. Les revendications sont multiples, pouvoir d'achat, chômage, mais surtout, Alexis Bédu, cette loi votée par le Parlement il y a 2 jours qui encadre le droit de grève.
Oui Gilles, une loi liberticide pour les syndicats malgré certaines concessions du gouvernement qui a finalement interdit au patronat d'avoir recours à des salariés de remplacement en cas de grève. Mais ça n'est pas suffisant pour Younes Firachine du bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail.
Cette loi a donné un pouvoir absolu pour le chef de gouvernement pour qu'il puisse arrêter une grève. Il y a une double punition, si on peut dire, des travailleurs grévistes, un contenu qui atteint et qui restreint le droit de grève.
Alors c'est la première grève générale depuis 10 ans et elle est plutôt bien suivie dans l'enseignement, dans l'administration publique, mais aussi dans certaines usines, chez Renault à Casablanca et Tanger par exemple. L'autre grande revendication des syndicats, elle concerne le pouvoir d'achat des travailleurs.
On s'est mis d'accord pour une augmentation des SMIG à 10%, mais malheureusement, la majorité des employeurs ne respectent pas la loi. Et face à la flambée des prix, par exemple, la viande, poulet, toutes les matières qu'utilisent les Marocains d'une manière quotidienne ont augmenté à des prix inacceptables.
Et il y a aussi ce taux de chômage qui ne cesse de grimper depuis 3 ans. Il s'établit à plus de 13% et atteint des sommets chez les jeunes. Près de 37% d'entre eux sont aujourd'hui sans emploi.
Alexis Bédu. L'actualité politique en France, actuellement tous les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale. Après la décision prise par le Premier ministre de faire adopter sans vote les projets de budget et de financement de la sécurité sociale, 2 motions de censure déposées par l'opposition sont soumises au vote cet après-midi. Elles ne devraient pas recueillir le nombre de voix nécessaires pour renverser le gouvernement Bayrou. À la page économique, les résultats 2024 de Total Energy, ex-Total. L'an dernier, le géant français du pétrole a vu son bénéfice net chuter, moins 26% par rapport à 2023. Mais 2023 et 2022 avaient été marqués par des super profits avec l'envolée des prix liés à la guerre en Ukraine. 15,8 milliards de dollars de profits l'an dernier. C'est tout de même le 3e meilleur résultat de l'histoire de Total Energy. Économie toujours, la filière du cognac à la gueule de bois en France. L'an dernier, les exportations vers la Chine ont chuté de près d'un quart en valeur par rapport à 2023. Altine Lazage, bonjour.
Bonjour Gilles.
Cette chute a pour cause, Altine, les mesures anti-dumping imposées par Pékin depuis l'automne.
La Chine compte en effet beaucoup pour la filière du cognac, très dépendante des exportations. 98% de la production est vendue à l'étranger. Le président de l'interprofession du cognac, Florian Morion, en appelle au gouvernement pour régler la question des taxes.
Notre premier marché donc en volume, ce sont les États-Unis, ensuite c'est la Chine, et c'est notre premier marché en valeur. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, ben on attend que le nouveau Premier ministre s'y déplace, parce que même en s'y déplaçant, ça ne garantit pas le résultat, mais s'il ne s'y déplace pas, le résultat, on le connaît par contre.
Et il ne reste pas de marché inexploré à exploiter, souligne Anthony Brun, président de l'Union des viticulteurs de l'appellation cognac.
Aujourd'hui, le cognac est exporté à travers le monde dans 150 pays depuis près de 300 ans. Les marchés où le cognac n'est pas présent ou pas beaucoup, c'est parce qu'il y a énormément de contraintes douanières qui font que nos prix n'y sont pas compétitifs. Et bien sûr qu'on peut espérer développer nos ventes sur ces marchés-là, mais ce n'est pas des marchés qui peuvent se développer du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, le président Trump peut aussi imposer des taxes, ce qui serait une catastrophe pour la filière qui compte environ 70 000 emplois directs et indirects en France.
Merci Altine Lazage. Aux Philippines, la Chambre basse du Parlement a voté la destitution de la vice-présidente Sara Duterte, la fille de l'ex-président Rodrigo Duterte. Son sort est désormais entre les mains du Sénat. Enfin, la Suède Suède sous le choc cherche à comprendre au lendemain de la pire tuerie de son histoire, 10 morts en plus du tireur hier dans un centre d'enseignement pour adultes. Le tireur s'est très probablement donné la mort selon les enquêteurs suédois. Voilà, c'est la fin du journal. Place maintenant à Sur le Pont des Arts avec vous Nathalie Amar. Bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et à tout à l'heure Sur le Pont des Arts, ça démarre dans 30 secondes.